Neuvième épisode. Le cottage hanté. Chapitre 1er. La bodega du vieux grillage. La bodega du vieux grillage, miraculeusement préservée lors du dernier tremblement de terre, est située dans le quartier de Queen City, à San Francisco. C'est un des plus anciens établissements de la ville, et sa construction remonte à l'époque héroïque et déjà légendaire de l'invasion de la Californie par les chercheurs d'or. Le vieux grillage, qui a donné son nom à la maison, se compose de barres de fer grosses comme le poing, séparant entièrement la salle où se trouvent les buveurs du comptoir des bouteilles d'alcool de toute provenance. Au temps où sévissait la fièvre de l'or, où les femmes amenées par les traitants du Chili et du Mexique se vendaient couramment aux enchères, tous les bars étaient pourvus de grillages semblables. Il n'était pas rare, en effet, qu'un homme fût assassiné pour une tranche de jambon ou un verre de whisky. Et l'on comptait, en y comprenant les exécutions sommaires des voleurs, des pics, une moyenne de 200 à 300 meurtres par jour. Alors, les barmen ne servaient leur clientèle que le revolver à la ceinture. Et ils n'allongeaient la consommation commandée qu'après avoir empoché la poignée de poudre d'or qui en représentait le prix. Avec le temps, ces mœurs féroces s'étaient modifiées. San Francisco, plusieurs fois reconstruite après des incendies et des tremblements de terre, était devenue une ville de luxe. Mais la bodega, précieusement conservée, avait survécu à tous les changements. Le grillage, il est vrai, n'est plus là que pour le pittoresque, et le propriétaire actuel de l'établissement avait joint à l'étroit comptoir de jadis une longue salle pourvue d'une estrade pour les représentations de music-hall, bondée chaque soir d'une clientèle disparate, dans laquelle on eût trouvé un échantillon de toutes les races humaines. Il y avait là des Chinois, des Japonais, des Allemands, des Mexicains, et un certain nombre de papous, de maoris et de types d'autres races océaniennes, venus en Amérique avec des navires chargés de nacre, de copra et d'écailles de tortue, et reconnaissables à leur teint d'un brun doré, à l'expression douce et pensive de leur physionomie. Des chanteuses atrocement maquillées se montraient tour à tour sur l'estrade située au fond de la salle. Mais c'est à peine si on les apercevait à travers le nuage épais de la fumée des cigares, si on les entendait, au milieu des chants, des rires, des vociférations qu'un orchestre de guitaristes mexicains n'arrivait pas à dominer. Ce soir-là, le vaste hall, dont le plafond bas était décoré de drapeaux de toutes les nations, était tellement rempli que les nègres qui faisaient le service avaient de la difficulté à circuler à travers l'étroite allée ménagée entre les tables. Dans un coin, trois hommes attablés autour d'un bol de punch devisaient avec animation tout en fumant des cigares de manille. L'un d'eux prenait à peine part à la conversation. C'était un matelot à la physionomie stupide, mais loyale, aux mains énormes et qui répondait au nom de Hardy. Quant à ses compagnons, ils formaient entre eux l'opposition la plus complète. L'un, mis presque avec luxe, avait les allures paisibles d'un employé de banque ou d'un domestique de bonne maison. Ses favoris blonds étaient taillés soigneusement et sa tenue était d'une correction parfaite. L'autre avait la mine d'un véritable bandit. Sa face basanée était encadrée d'une barbe et de cheveux grisonnants, et ses yeux jaunes avaient la mobilité particulière à ceux des malfaiteurs. Ils exprimaient la ruse, la cupidité et l'inquiétude. Ses vêtements de toile grossière faisaient contraste avec les nombreuses bagues dont ses doigts étaient chargés, et le paquet de breloques qui tintinambulait à la chaîne de sa montre. Il se nommait le capitaine Christian Knox, et même dans les bouges de San Francisco, où on se montrait très accommodant sur la question de moralité, il possédait la plus déplorable réputation. Accusé deux fois déjà d'assassinat, mais acquitté faute de preuves, il passait pour se livrer à la piraterie. « Monsieur Edouard Edmond, » dit le capitaine à son compagnon, « je suis entré aujourd'hui dans le chantier où se construit le fameux yacht, et j'ai pu me rendre compte que vous n'avez rien exagéré. »« C'est que, » répondit l'homme au favori, « on ne ménage pas les banknotes, je vous prie de le croire. » Tout est de première qualité, depuis la coque en acier jusqu'aux machines qui sont munies des derniers perfectionnements. D'après ce que j'ai vu, c'est un bateau qui filera facilement ses 30 nœuds à l'heure. Mais par exemple, ajouta le capitaine dont la curiosité était vivement excitée, je me demande à quoi pourra servir un pareil yacht. C'est vrai, approuva le matelot Hardy, on dirait tout à fait un vaisseau de guerre. Sur ce sujet, fit Edouard Edmond, je n'en sais pas plus long que vous. Mais enfin, quelle traversée fera-t-il ? Demanda le capitaine avec insistance. « Je l'ignore. »« Que diable ! Vous devez pourtant connaître ceux qui le font construire. »« Cela se pourrait, mais je n'ai le droit de rien vous dire. »« À votre aise, grommela le capitaine Knox d'un ton bourru. « Cependant, toutes ces cachotteries-là ne me présagent rien de bon. On me dirait que ce yacht-là est destiné à faire la course, à couler bas les jonques chinoises et les voiliers anglais dans les parages de la Polynésie, que je n'en serais pas surpris. » « Qui peut vous faire croire une pareille chose ?» Le marin secoua la tête avec méfiance. « Vous voyez, moi, murmura-t-il, je suis un vieux macaque à qui l'on ne fait pas prendre les vessies pour des lanternes. Votre damné bateau ne ressemble ni à un yacht de plaisance, ni à un vapeur de commerce. Alors, cela ne vous dirait rien de vous embarquer avec nous en qualité de premier lieutenant ? Tout le monde sait que vous êtes un homme énergique et un excellent marin. » « Possible. Mais quand je prends la mer, c'est pour mon compte, sur un bateau à moi. Je ne veux recevoir d'ordre de personne. » « Comme il vous plaira, » fit Édouard Edmond, dont la physionomie exprima le désappointement. À ce moment, la conversation fut interrompue par les applaudissements des spectateurs qui faisaient ovation à de petites danseuses javanaises, maigres, brunes et frétillantes comme des cigales. Quand le tapage se fut un peu apaisé, Édouard Edmond se tourna vers le matelot. « Et vous, Hardy, lui demanda-t-il, qu'en pensez-vous ? Que diriez-vous d'un engagement de 3 mois avec double solde, nourriture de premier choix et pas trop de fatigue ?» L'homme eut un rire épais. « Oh, ma foi » acquiesça-t-il. « J'en suis. On ne trouve pas tous les jours une pareille occasion. Puis on ne me fera jamais croire qu'un si beau navire soit destiné à faire la piraterie. Alors c'est entendu. Vous passerez demain à mon bureau signer votre engagement. Et bien que le yacht ne doive prendre la mer que dans 6 semaines, je vous verserai un mois d'avance. » À l'instant précis où Édouard Edmond prononçait ces paroles, une main se posa sur son épaule. Il se retourna avec un brusque mouvement. Mais à l'aspect du nouveau venu, il pâlit, et sa physionomie exprima un certain trouble. « Vous ici, monsieur Slug ? » fit-il avec agitation. Slug, un homme de carrure athlétique et dont la barbe grise lui descendait jusqu'à la ceinture, eut un sourire malicieux. « Comme vous voyez, » répondit-il, « charmé de vous rencontrer. J'ai précisément quelque chose à vous dire. Vous avez bien un instant. » Sans attendre la réponse de son interlocuteur, il le prit familièrement par le bras et l'emmena à 2 pas de là en face d'une table inoccupée. « Alors, » dit Slug sans préambule, « vous n'occupez plus les honorables fonctions de concierge en chef chez le milliardaire Fred Jorgel ? Vous vous êtes fait recruteur de matelot ?»« Qui a pu vous dire cela, monsieur Slug ?» riposta l'Irlandais avec embarras. « N'importe. L'essentiel, c'est que je sois bien informé. Mais je continue. Vous n'avez pas à quitter le service du milliardaire, mais comme il a en vous une grande confiance, confiance entre nous assez mal placée, c'est vous qui l'a chargé de lui trouver des gaillards solides et honnêtes pour une mystérieuse expédition dont le but vous est d'ailleurs parfaitement inconnu. » « Très exact. Eh bien, mon cher Master Edouard, je me suis mis en tête de vous aider dans votre tâche, et j'ai des raisons de croire que vous suivrez mes conseils de point en point. Ainsi, par exemple, ce Hardy que vous venez d'embaucher, je n'en veux pas. » « Pourquoi cela ? » fit le représentant de Fred Jorgel au comble de la surprise. « Tout simplement parce qu'il me déplaît. Mais c'est comme cela. » Édouard Edmond demeura silencieux. Un violent combat se livrait en lui-même. « Il ne me sera guère possible, reprit-il, de vous obéir. Ainsi, par exemple, ce Hardy. Vous le renverrez en l'indemnisant. D'ailleurs, poursuivit Slug, vous devez vous douter que vous ne perdez rien à cette combinaison. Vous touchiez $1000 par mois pour me laisser examiner le courrier de Fred Jorgel, vous en toucherez 2000 à la condition de n'engager que les marins que je vous désignerai moi-même. » Édouard Edmond paraissait hésitant. Oh, « C'est que, balbutia-t-il, je ne fais pas entièrement ce que je veux dans cette affaire. Je ne suis pas le maître. Je ne demande pas mieux que de vous être agréable, mais... » « Comme il vous plaira, » fit Slug avec une froideur glaciale. Et il regardait fixement l'Irlandais qui se sentait frissonner. Il y eut un long silence. « Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous être agréable, » bégaya Édouard Edmond, profondément troublé. « Je ne veux pas d'une demi-promesse de cette sorte, » répliqua brutalement Slug. « Vous ferez tout ce que je vous dirai exactement ou vous ne ferez rien du tout. Et ce sera tant pis pour vous. » Entre les deux hommes, il y eut encore un silence. Mais tout à coup, les guitaristes mexicains attaquèrent la habanera d'un rythme enragé. L'électricité flamboya, plus aveuglante, et dans un ouragan d'applaudissements et de hurrahs, la Dorifa parut, un sourire méprisant aux lèvres, sûre qu'elle était de sa puissance sur cette foule. « Le tango !» criaient les uns. « Non, non !» répétaient les autres. « La mexicana !»« Non, la habanera !» La Dorifa continuait à sourire énigmatiquement, faisant rouler lentement ses hanches d'un mouvement harmonieux. et son indécision portait à son comble l'enthousiasme et les désirs des spectateurs. Mais tout en semblant en apparence indifférente, la danseuse fouillait la salle de son regard aigu. Et tout de suite, elle aperçut Édouard Edmond. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'Irlandais tressaillit comme s'il eût posé le doigt sur un fer rouge. Cette scène muette n'avait point échappé à Sleg. « Eh bien, s'écria-t-il, quelle est votre décision ?»« Je vous obéirai en toute chose, » répliqua l'employé de Fred Jorgel avec un fiévreux empressement. « Vous n'avez qu'à commander, je suis votre homme. » La présence de la gitane avait suffi pour triompher de toutes les hésitations d'Édouard Edmond qui, depuis plusieurs mois, était son amant. Devant la Dorifa, l'Irlandais n'était plus lui-même. Il suffisait d'un seul regard de ses beaux yeux langoureux pour réduire à néant ses résolutions les plus fermes. « Je suis content de vous voir devenu plus raisonnable, » dit Slug, qui ne paraissait nullement surpris de ce revirement. « Les hommes que je vous présenterai sont des gaillards solides et en qui l'on peut avoir toute confiance. D'ailleurs, vous pourrez toucher $1,000 d'acompte quand vous voudrez, dès demain, si cela vous fait plaisir. » Cependant, la Dorifa, qui avait eu le temps d'échanger avec Slug un signe imperceptible, avait commencé à danser la Havanera, qui était son grand succès. Et dans le silence qui tout à coup avait envahi la salle, naguère si bruyante, on n'entendait que le souffle des respirations haletantes de désir, que le battement de tous les cœurs en débandade. Slug prit rapidement congé d'Edouard Edmond, et celui-ci alla se rasseoir auprès du capitaine Christian Knox et du matelot Hardy. Tous deux ne purent s'empêcher de penser qu'il avait quelques préoccupations graves, car tout d'un coup, il était devenu taciturne, mélancolique, et ses regards ne quittaient plus la danseuse qui, maintenant le torse cambré, les seins en avant, la croupe vibrante, semblait s'offrir toute à cette multitude râlante de luxure. Slug s'était éloigné tout doucement, et, gagnant le fond de la salle, il était entré dans un parloir dont la porte s'ouvrait presque en face du fameux comptoir criagé. À cet endroit, il y avait deux hommes attablés devant un sherry gobbler. Ils ne portaient pas de masque, mais des lunettes de chauffeur d'automobile, des feutres à large bord et d'amples fouloirs de soie dissimulaient entièrement leurs traits. Slug, en entrant, se découvrit et vint s'asseoir dans une attitude respectueuse en face des deux gentlemen. « Eh bien, » demanda l'un des deux d'une voix sourde, « avez-vous réussi, Master Slug ?»«
Oui, Milord, l'Irlandais sera désormais le plus fidèle des esclaves de la main rouge. »
Alors, il ne s'est pas fait tirer l'oreille.
Il ne paraissait pas très décidé, mais il a suffi d'un regard de la Dorifa pour le rendre docile. Il est fou de cette fille. Elle lui mangera jusqu'à son dernier dollar. Elle le conduira à la potence.
C'est bien, Slug. Vous pouvez vous retirer. Demain, vous recevrez de nouvelles instructions.
Le bandit salua obséquieusement et disparut. Dès que la porte se fut refermée derrière lui, le plus grand des deux buveurs dit à l'autre.
« Vous savez, mon cher Cornelius, que tout à l'heure, quand j'ai jeté un coup d'œil dans la salle, j'ai vu la danseuse. Tout ce que Slug en a raconté n'est pas exagéré. Elle est véritablement affolante. »
« Vous la trouvez belle, merveilleuse.
Méfiez-vous, Baruch. Avec les préoccupations que nous avons, la question « femme » doit être soigneusement écartée, du moins pour l'instant.
Oh, soyez tranquille, docteur. Si je vous ai parlé de cette fille, c'est d'une façon tout à fait désintéressée. »
Le docteur Cornelius ne répondit pas. Son attention venait d'être brusquement attirée par un bibelot placé sur la cheminée du parloir. C'était une simple bouteille en verre verdâtre, mais par suite d'un long séjour au fond de la mer, elle était recouverte de concrétions pierreuses, de coquillages et de coraux, qui lui donnaient la bizarrerie élégante de quelques vases dus aux caprices d'un artiste chinois ou japonais.
« Voilà qui est curieux, » dit Baruch.
« C'est plus que curieux, » répliqua Cornelius.
« Au point de vue scientifique ?»«
Nullement, mais ce bibelot baroque pourra nous servir dans nos projets. »
Cornelius avait appuyé sur un bouton électrique.
Un waiter parut. « Demandez au publicain, » fit Cornelius, « combien il veut de cette bouteille ?»«
Oh, je sais qu'il y tient beaucoup, » répliqua l'homme.
« C'est bon. Qu'il fasse son prix, je ne marchanderai pas. »
Le waiter revint 5 minutes après. Le patron voulait $15.
« Ce n'est pas trop cher, » dit le docteur. « Voici l'argent, mais tâchez de me trouver une petite boîte de carton pour que je ne détériore pas l'objet en l'emportant. »
5 minutes après, le docteur Cornelius et son compagnon sortaient de la bodega du vieux grillage, aussi mystérieusement qu'ils y étaient entrés, profitant, pour n'être pas remarqués, de l'instant où, sous les hurrahs frénétiques des spectateurs qui applaudissaient la Dorifa, les murailles branlantes du music hall semblaient prêtes à s'écrouler.